C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Queer Côté Geek avec Philippe Aubert Côté.
Ah, Philippe Aubert, on va parler de Star Trek ou Star Wars.
Oui, un débat très dangereux.
Alors, on va vivre dangereusement. Pourquoi?
Bien, parce que c'est une grosse problématique chez les geeks. Hein? Les deux fandoms rivalisent depuis longtemps pour savoir laquelle des deux franchises est la meilleure. Hein? Ah. C'est tellement important même que, je te préviens, si tu dates un geek, ça se peut que tu te fasses demander est-ce que t'es Star Wars ou Star Trek, là? Aussi bien que si tu vas te faire demander si t'aimes le sexe ou le chocolat ou si t'es top ou bottom.
Star Trek ou Star Wars, top ou bottom? Alors, t'es quoi? T'as Star Trek ou Star Wars?
Moi, je suis plus Indiana Jones.
Ah bon?
Ouais, parce qu'il y a un fouet. Tu sais, Indiana Jones, il y a un fouet, puis avec son fouet...
OK. On va aller explorer une autre frontière, okay. Ça ne te dérange pas. On va tomber dans le côté obscur de Philippe Aubert Côté. Donc, tu nous proposes aujourd'hui une confrontation entre Star Wars et Star Trek, mais sous l'angle queer.
Oui. Je trouvais ça intéressant de parler de ces deux franchises-là, parce qu'elles sont majeures. Qu'on aime la science-fiction ou pas, on les connaît. C'est passé dans la culture générale. Mais moi, je me demandais, quelle était leur relation par rapport... au fandom queer et à la question queer et aux problématiques queer.
Donc, tu as mis ton chapeau d'Indiana Jones. Est-ce que tu as porté ton fouet?
On part jamais à l'aventure sans son fouet. Hein? Bon. Donc, je suis parti tout bien équipé. Puis pour répondre à ma question, je suis allé explorer d'abord comment et pourquoi les deux franchises sont nées. Donc, je vais vous faire un petit historique de la genèse de Star Wars et Star Trek, mais c'est très important pour comprendre comment que la relation avec le côté queer.
Commençons avec Star Trek, donc.
Donc, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les 50 et 60 dernières années. Donc, qu'est-ce que c'est Star Trek? C'est une franchise de science-fiction déclinée en séries télévisées, films, romans et comics qui nous présente un futur lointain où humains et extraterrestres forment une sorte de confédération interplanétaire au sein de laquelle ils vont vivre diverses aventures. Hein. Puis le concept de base, c'est que tu as plusieurs ethnies ou espèces qui doivent donc collaborer pour résoudre des problèmes. Et comment c'est apparu et quand c'est apparu? Star Trek, c'est d'abord apparu sous la forme d'une première série télévisée diffusée de 1966 à 1969. Mmh. Et là, qui est le créateur de Star Trek? Ça vaut la peine de s'intéresser au monsieur. C'est un certain Gene Roddenberry, de son vrai nom Eugène Wesley Roddenberry, 1921-1991. C'est un policier puis un pilote d'avion, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui a survécu à plusieurs crashs, mais qui s'intéressait à l'écriture puis à l'art. Après la Deuxième Guerre mondiale, il est allé à Los Angeles, il était policier et à temps partiel, il était scénariste sur des séries qui racontaient des histoires de western, des histoires policières ou armées, tout ça. Mais là, il se demandait comment je peux aborder ces termes-là d'une façon originale. Et son apport, ça a été d'apporter ça dans l'espace. Parce que c'était à l'époque de la conquête spatiale aussi, c'est la course à la Lune. Hein. Il s'est dit, j'ai abordé mes thèmes dans l'espace. Et c'est là qu'il a créé Star Trek. Et c'était révolutionnaire à l'époque, Denis Martin, parce que là, tu avais un vaisseau avec un équipage qui était multiethnique, hein, avec des multiethniques et des personnages multiethniques, noirs, asiatiques, russes, etc., qui doivent s'associer des fois avec d'autres espèces pour résoudre des problèmes. C'était donc un écho des problématiques sociales de l'époque. C'est la lutte pour les droits civiques, tout ça. Hein. Ça a vraiment brassé la cabane sur plusieurs plans. Whoopi Goldberg l'a toujours dit que c'est quand elle avait vu la lieutenant Uhura dans Star Trek, jouée par Michelle Nichols, qu'elle avait compris « Hey, les personnes noires peuvent être autre chose que des ménagères ou des secrétaires à la télévision. » Là, on lui montrait un personnage positif. Donc, ça a brassé la cabane sur plusieurs plans.
La première série, donc, s'arrête en 69. On est trois semaines avant les émeutes de Stonewall.
Exact. Détail à retenir.
Oui.
La première série s'interrompt en 1969, trois semaines avant les émeutes de Stonewall. Ça va rester en suspens dans les années 70. Gene Roddenberry va développer du matériau pour faire d'autres séries, mais ça va plutôt servir à alimenter des films dans les années 80, parce qu'entre-temps, Star Wars va sortir, puis là, ça va montrer à la Paramount que, oh, OK, ça peut être intéressant peut-être d'avoir Star Trek au grand écran. Donc là, ça va dériver sous forme de film. Puis il va falloir attendre la fin des années 80 pour que Roddenberry lance une nouvelle série Star Trek qui s'appelle Next Generation, dominée par Patrick Stewart dans le rôle principal. Lui va décéder en 91 et il va y avoir d'autres séries télévisées qui vont survenir après ça, mais aussi beaucoup de déclinaisons en romans, comiques, dessins animés, etc.
Juste préciser qu'on parle de Roddenberry qui est décédé en 91, pas Patrick Stewart, qui est encore là, puis on le voit dans d'autres séries.
Et oui.
Donc, alors, en comparaison, la naissance de Star Wars a été beaucoup plus compliquée.
Beaucoup plus compliquée, et c'est un projet tout à fait différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Star Trek, dès le départ, c'était un prisme pour montrer la société. Hein, ça avait des visées sociales avant tout, alors que Star Wars, c'est un projet qui est avant tout artistique et technique. Il fallait inventer des effets spéciaux pour ça. Et le but, c'était de proposer une nouvelle mythologie, un nouvel imaginaire aux spectateurs. Qui a créé Star Wars? C'est George Lucas. Donc, il est né en 1944, 22 ans plus jeune que Roddenberry, mais complètement une autre génération. C'est un ado rebelle. Il veut faire de la course automobile. Il se pète la fraise à un moment donné, passe à deux doigts de mourir, puis il se dit « Je vais repenser mes choix de vie ». Il rentre à l'université en cinéma où il rencontre un certain Francis Ford Coppola, mm-hmm. qui va réaliser Le Parrain plus tard de même. Ils s'associent, ils produisent des films, tout ça. Ils font des projets, puis Lucas se dit « Mais moi, j'aimerais apporter une nouvelle mythologie aux gens. » Lui, il est fasciné par les vieux feuilletons de science-fiction de son époque, le cinéma japonais, mais aussi toutes sortes de théories universitaires sur la mythologie. Puis il va offrir un grand imaginaire positif aux gens. Et c'est comme ça qu'il va imaginer Star Trek. Des combats spatiaux, c'est épique, des combats de samouraïs dans l'espace avec des sabres, tout ça. Là. Hey, c'est quelque chose, là, c'est du jamais vu. Tellement jamais vu que personne ne comprend son ambition. Il propose le scénario au studio. Les studios ne veulent rien savoir. Francis Ford Coppola dit « C'est intéressant, mais ouais, il lui fait des suggestions, mais bon. » Il y a finalement la 20th Century Fox, excusez mon anglais, qui accepte de produire le film avec un budget modeste de 11 millions. À l'époque, c'est très petit, là, c'est moyen. C'est un tournage extrêmement difficile. Les acteurs ne comprennent pas des fois le film. Il faut inventer une compagnie d'effets spéciaux pour tout faire ça. Les gens ne voient pas le produit fini. Puis, mon Dieu, on pense que ça va être un flop, tu sais. Mais quand ça sort, c'est la révolution. 800 millions de dollars de recettes à travers le monde pour un budget de 11 millions de dollars de 1977. Ouais. Donc, c'est des fortunes aujourd'hui. Là, on a compris la vision de Star Wars, puis ça a pogné. Mais Star Wars, pas Star Wars, George Lucas a tellement été traumatisé par la réalisation du premier film qu'il va déléguer la réalisation de deux autres films à d'autres personnes, puis il va superviser ça un peu de loin. T'sais. Donc, il y a un deuxième Star Wars qui sort au début des années 80, puis après ça, un troisième film. Après ça, il pense en avoir fini avec Star Wars pendant longtemps. Il ne veut rien savoir de la réalisation. Il va collaborer avec Spielberg pour Indiana Jones et pour d'autres projets comme ça. Mais entre-temps, l'univers de Star Wars se développe. Il y a des romans qui s'écrivent, il y a des dessins animés, des bandes dessinées qui apparaissent. Et là, ça lui fait dire, donné, ben, peut-être que je pourrais revenir faire d'autres films de Star Wars. Donc, c'est pour ça qu'en 1997 jusqu'à 2005, il va sortir trois autres films qui vont constituer une prélogie, une histoire racontée avant la trilogie originale de Star Wars. Et il va y avoir après ça une trilogie conclusive de 2015 à 2019.
Bon, là, on vient de faire le tour de ça, mais qu'en est-il du côté queer de ces deux franchises?
Rappelez-vous le contexte dans lequel les deux œuvres ont été conçues. Star Trek, premièrement, s'est fait à la télévision et on veut parler de diversité et de problèmes sociaux. Donc, la diversité ethnique était très présente au cœur du concept, ainsi que les problématiques politiques de l'époque. Côté queer, la première série n'aborde pas l'homosexualité ou la diversité sexuelle. Mais personne n'est étonné. Même les militants queer le disent, c'est pas surprenant, parce que rappelez-vous ce qu'on a dit plus tôt, la première série s'est interrompue trois semaines avant les émeutes de Stonewall. C'était donc avant les grands débats publics sur les droits des LGBT. C'était pas sur l'écran radar de Roddenberry, donc c'est pas étonnant qu'on l'aborde pas dans la série.
Okay.
Dans les films des années 80, on l'abordait pas vraiment non plus. C'était pas sur la carte non plus. Mais en 87, quand Roddenberry a commencé à penser à une nouvelle série, là, il y a un groupe qui s'appelle le International Gay Lactic Network. Galactique, pas
oui,
galactique.
G-A-Y,
oui. Hein, qui, c'était des fans queer de SF qui militaient pour la représentation des queers en science-fiction. Eux, ils l'ont interpellé dans une convention pour dire « Est-ce qu'il va y avoir des personnages LGBT dans Star Trek? » Et le gars était d'accord. Le monsieur le dit lui-même, Roddenberry, dit « Oui, je trouve que c'est important de parler des personnes LGBT. » Lui-même, à travers son travail sur Star Trek, avait pris conscience de ses propres préjugés ou attitudes passives envers l'homophobie. Puis il s'est dit « J'ai pas été correct à une époque par mon inertie. Il faut qu'on fasse de quoi? » Il a préparé des scénarios pour aborder le problème LGBT. Il voulait qu'on en parle dans la série et malheureusement, il est mort en 1991. Donc, certains scénarios n'ont pas pu être mis en branle tout de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a une relation amour-haine entre les fans queer de Star Trek puis Star Trek, parce que il y a des personnages, des problématiques queer qui sont apparus, mais ça a été critiqué. Un premier couple gay a été montré, mais un des deux meurt. T'sais. On a abordé la problématique du VIH, mais par une allégorie très compliquée là, de parasite mental, parce qu'on a fait une fusion mentale télépathique avec quelqu'un qu'on n'aurait pas dû. T'sais. C'était abordé par l'allégorie, tout ça, et les fans n'étaient pas très contents au début. Eux, ils voulaient qu'on montre les personnages LGBT bien intégrés dans le futur utopique qu'est Star Trek. C'est ce qu'ils voulaient. montrer que les personnes LGBT sont acceptées et qu'on est heureux. Ils voulaient qu'on montre finalement l'idéal vers lequel la société doit tendre. C'est ça, Star Trek, c'est une utopie. Mais les producteurs disaient, bien, nous, on va aborder les problématiques modernes. Il faut qu'on montre les troubles que vivent la communauté LGBT, dont l'homophobie et autres. Puis là, bien, c'est pour ça qu'on parlait toujours des LGBT sous l'angle des problèmes, tu sais. Puis les fans aimaient moins ça, tu sais. Puis il y a des producteurs qui disaient, mais pourquoi parler des personnes LGBT dans le futur de Star Trek si elles sont acceptées, ils n'ont pas de raison d'être visibles? Ça, c'est un argument homophobe qu'on entend des fois encore aujourd'hui. Hein?
Oui, tout à fait.
Tout ça. Donc, c'est surtout dans l'univers étendu puis dans les séries que de plus en plus de personnages queer sont apparus. C'est beaucoup mieux aujourd'hui. Côté film, ça fait dur encore. Dans le dernier film de Star Trek fait en 2016, on montre Monsieur Sulu avec son conjoint puis une fille adoptive. T'sais, mais c'est timide, il a fallu galérer pour arriver à ça. Puis la dernière série Star Trek, qui s'appelait Starfleet Academy, m'ont présenté un personnage de Klingon gay, qui est très joli, soit dit en passant. Mais la série vient d'être interrompue après 2 saisons parce que des fans trouvaient que c'était trop woke.
Oui. Bon, alors le phénomène, un phénomène dont a aussi été victime la franchise Star Wars.
Exactement. La relation de Star Wars avec les queers est étonnamment semblable à celle de Star Trek sur plusieurs plans. Star Wars, on se rappelle, le but premier, c'était de proposer une nouvelle mythologie. C'était de réinventer le cinéma. Hein? On voulait pas parler de problématiques sociales. George Lucas n'était pas préoccupé par ça. Donc, c'est pour ça que la première trilogie de Star Trek, ben, ça parle pas vraiment de personnes queer. Hein? Puis même côté femmes, ça faisait dur, les versions originales. Il n'y a pas beaucoup de femmes en dehors de la princesse Leia, tu sais. Quand George Lucas a abordé la nouvelle trilogie, il a voulu introduire un personnage queer, puis il voulait que ce soit l'extraterrestre qui s'appelle Jar Jar Binks, qui apparaissait dans la trilogie, qui soit un personnage gay. Le problème, c'est qu'il a renoncé à l'idée parce que Jar Jar Binks est un personnage comique et stupide qui était en plus détesté par les fans après. Et il s'était dit avant, je suis mieux de ne pas le mettre gay. Et il a bien choisi, tu sais. Donc, tout ça.
Ça aurait pu y amener, oui, des ennuis.
Ça, des gros ennuis, tu sais. Puis, c'est surtout dans l'univers étendu de Star Trek, dans les films, dans les romans, les séries télévisées, animées et autres, qu'on a vu beaucoup de personnages queer apparaître. Il y a des recensions qui existent sur Internet. Donc, ça s'est beaucoup amélioré. Mais côté cinéma, ça fait encore dur.
Ouais.
Dans la dernière trilogie qui a été tournée de 2015 à 2019, il y avait 2 personnages, un joué par l'acteur John Boyega, puis l'autre Oscar Isaac. Il y avait beaucoup de spéculations sur le fait qu'il y avait peut-être une relation homosexuelle. Les deux comédiens l'ont même joué avec cette optique-là en tête, en disant qu'elle allait avoir un grand coming out dans le dernier film. Puis on l'a annoncé, il va y avoir un moment queer dans le dernier Star Wars. Finalement, ça a juste été un petit baiser lesbien très discret à l'arrière-plan.
Bon, bien, qui remporte la palme côté queer?
Les deux franchises sont vraiment similaires. Les queers sont surtout apparus dans les univers étendus, mais dans les films, ça, c'est plutôt difficile encore. Hein? La faute en incombe aux producteurs et peut-être à certains fans qui, des fois, sont homophobes. Donc, il y a quand même certaines similitudes entre les deux.
Bon, OK. Finalement, là, qui remporte la palme? Là?
Écoute, Denis Martin, s'il y a une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que si on tient à la vie, on ne tranche jamais une confrontation entre Star Trek et Star Wars.
Bon,
jamais.
Bon, bon. Alors, là-dessus, moi, je vais te souhaiter, et je vais faire le signe de la main, hein, on dit longue vie et prospérité.
Eh bien, que la force soit avec toi.
Ah, le 4 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette saison, puis on espère te revoir la prochaine.
Merci, à l'année prochaine.
Pour joindre l'équipe de l'Heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur, et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
Bon, est-ce qu'on va voir un fouette là-dedans?
Bien, toujours.
Ah oui, toujours. Il est où? Tu ne l'as pas apporté finalement, hein?
Hey, dans mon sac à dos. C'est un fouet pliable laser.
Laser. Oh là là. Bon, on n'aura jamais cette réponse-là entre Star Trek et Star Wars. Eh bien, c'est la fin de cet épisode de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci à tous nos invités, hein, Chantal Nadeau, Christophe Gérard pour la chronique internationale. Merci aussi à Yves Lafontaine qui vient nous parler de ce 500e numéro de Fugue. C'est pas rien quand même. Et merci aussi à Philippe Aubert-Côté pour la chronique Queer Côté Geek. J'adore ce nom de chronique. Je suis très content de cette découverte. Merci à l'équipe de recherche Godéric Trob. Merci aussi à Mathieu Tessier pour la mise en onde. Merci à toute l'équipe de Canal M. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Je réalise et j'anime cette émission. À la semaine prochaine.